France Inter, il est 13h passé de quelques secondes. C'est l'heure de votre journal, Frédéric Barrère.
Bonjour à tous. Magistral Quentin Fillon-Maillet, champion olympique de poursuite en biathlon. Quentin Fillon-Maillet entre dans la légende du sport français. Il devient le premier sportif tricolore à remporter 4 médailles au cours d'une même édition des Jeux d'hiver. 2 autres médailles aussi ce matin, du bronze en slalom géant et en ski de fond. Nous serons à Pékin dans un instant. La politique ce dimanche avec, à droite, le premier grand meeting de Valérie Pécresse cet après-midi. Et ses soutiens qui rappellent que la candidate Les Républicains est la seule à pouvoir gagner face à Emmanuel Macron. L'actualité à l'étranger avec cette question, faut-il quitter le Mali ? Et il semble que la fin de Barkhane ne soit plus qu'une question de jours. Le retrait des forces françaises au Mali pourrait être annoncé lors du sommet Europe-Afrique cette semaine. La crise en Ukraine, Moscou répondra bientôt aux contre-propositions américaines. Invité de ce journal, Georgina Wright, directrice du programme Europe à l'Institut Montaigne. La météo, de la pluie et du vent sur le Nord-Ouest. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition.
France Inter.
Et on débute sans plus attendre avec la belle journée pour les Français aux Jeux Olympiques de Pékin et une médaille d'or qui brille tout particulièrement. Quentin Fillon-Maillet décroche le titre olympique en poursuite et en patron. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour Frédéric et bonjour à tous.
En direct de Pékin, c'est vrai, Quentin Fillon-Maillet a été impressionnant.
Ouais, impressionnant. Et ces scènes, alors en ce moment, ces scènes de joie dans le clan français font vraiment, vraiment plaisir à voir. Ils nous réchauffent un peu dans cette atmosphère très, très fraîche, glaciale, ici à Zhangjiakou. Mais c'est vrai, Quentin Fillon-Maillet savoure une nouvelle fois cette médaille d'or. Il en a sauté de joie sur le podium tout à l'heure, le poing levé comme quand il a franchi la ligne d'arrivée tout à l'heure, en tête, tapant son torse avec ses poings, parce qu'il est bien le patron du biathlon mondial. Quentin Fillon-Maillet qui était parti en deuxième position et qui a réalisé une course magistrale. Vous avez raison Frédéric, c'est bien le mot. Il a fait un 20 sur 20 au tiers malgré les conditions dantesques ici. Il neige beaucoup, il y a beaucoup de vent, c'est la nuit, il fait froid. Et il a réussi un 20 sur 20, devançant notamment son principal adversaire, Johannes Beu, qui a commis beaucoup de fautes au tir. Et c'est dans le dernier tour qu'il a viré en tête et qu'il a franchi cette ligne d'arrivée seul avec, encore une fois, cette médaille autour du coup sa quatrième. Et oui, Quentin Fillon-Maillet rentre, vous l'avez dit, dans la légende du sport français. Et Martin Fourcade, qui était à côté de nous tout à l'heure, dit toute son admiration envers son ex-collègue de l'équipe de France, le Jurassien, qui réalise des jeux magnifiques, sublimes. Quentin Fillon-Maillet qui est encore en train de sauter de joie avec ses copains de l'équipe de France.
Et on le comprend, Quentin Fillon-Maillet, champion olympique en poursuite. Merci Jérôme Vallée. Cette belle journée de Pékin a débuté avec 2 médailles de bronze pour les Français. Mathieu Fèvre en slalom géant, autre médaille en ski de fond, relais 4 fois 10 km. Les Français Richard Jouve, Clément Paris, Maurice Magnifica et Hugo Lapalu perpétuent une tradition désormais bien française. Un podium pour la 3e fois consécutive au JO. Hugo Lapalu savoure sa médaille de bronze.
Ouais, je pense que j'ai jamais autant stressé de ma vie. C'était un rêve de courir en relais olympique et une médaille au bout, c'est juste incroyable. Enfin, il n'y a pas de mots, j'ai vécu une journée de ouf entre l'échauffement... L'attente aussi des autres, de voir ce que Richard faisait, Clem et Maurice, enfin, c'était incroyable et ça se finit bien. Donc là pour le moment c'est que du bonheur, on va profiter je pense.
Hugo Lapalu avec Xavier Monferrand. La politique ce dimanche et la guerre des nerfs qui se poursuit à l'extrême droite. Stéphane Ravier, sénateur du Rassemblement National, annonce son ralliement ce matin à Éric Zemmour, à droite, chez les Républicains. Le temps fort de la campagne, c'est le premier grand meeting de Valérie Pécresse, cet après-midi au Zénith de Paris. Et la candidate de droite joue gros après une semaine marquée par les départs de plusieurs élus à l'air chez Emmanuel Macron et le soutien de Nicolas Sarkozy qui se fait attendre. Valérie Pécresse qui est aussi devenue la cible ces derniers temps de la majorité et d'Éric Zemmour. Elle va dévoiler cet après-midi la cohérence de son programme, dit-elle. Jean Rottner, président de la région Grand Est et conseiller écologie de Valérie Pécresse.
On a un peu ce sentiment, de la part d'ailleurs des équipes du président candidat ou du candidat président, on ignore encore de quelle manière il faut le prendre. On a l'impression de la part des équipes d'extrême droite d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen qu'effectivement Valérie Pécresse est la candidate qui fait un petit peu peur parce que ce deuxième tour, tout semble indiquer que potentiellement, s'il y a un deuxième tour Macron-Pécresse, elle est en position de pouvoir l'emporter. Il y a encore quelques mois, on nous disait tous morts, au bord de l'agonie, et regardez, aujourd'hui, malgré quelques défections, eh bien nous sommes là, nous sommes solides, nous travaillons sur le terrain, des militants, des sympathisants, eh bien nous rejoignent au quotidien, dans nos meetings, dans nos rencontres.
Il y a quelqu'un qu'on attend un peu du côté de Valérie Pécresse, c'est Nicolas Sarkozy. Sa parole de soutien n'arrive pas.
Mais je crois que la parole de Nicolas Sarkozy, elle doit arriver au bon moment. C'est peut-être un petit peu trop tôt encore. Moi, je suis confiant sur cette parole qui viendra au bon moment soutenir sa famille politique.
Jean Rotner au micro France Info de Jean-Rémy Baudeau et puis Jean-Michel Blanquer, qui était l'invité juste avant ce journal de questions politiques sur France Inter, indique que l'enlèvement du masque à l'intérieur dans les écoles est très vraisemblablement ce qui va arriver avant la fin de l'année scolaire. Il est éminemment souhaitable que le masque puisse être enlevé aux enfants le plus tôt possible et c'est ce qui arrivera au printemps. C'est la bonne formule, a déclaré le ministre de l'Éducation nationale. Et maintenant, direction Bruxelles. Une partie du convoi de manifestants anti-pass vaccinal est partie ce matin pour rallier Bruxelles, où un grand rassemblement est prévu demain. Hier à Paris, certains manifestants sont passés entre les mailles du filet de la police et de la gendarmerie pour rejoindre l'Arc de Triomphe et les Champs-Élysées. Les forces de l'ordre sont intervenues hier après-midi et cette nuit encore pour évacuer les manifestants. Il y a eu 97 interpellations, 81 personnes ont été placées en garde à vue, dont Jérôme Rodriguez, l'une des figures des Gilets jaunes. Il y a également eu 513 verbalisations et ce matin, une enquête administrative a été ouverte par la préfecture de police montrant un policier, des vidéos montraient un policier braquant son arme sur un automobiliste. Sophie Parmentier.
97 interpellations en une journée très exactement et presque tous les interpellés placés en garde à vue. Ce matin, il restait 81 personnes dans les locaux de la police, interpellées essentiellement au motif d'avoir participé à un groupement en vue de commettre des violences et des dégradations. Les policiers ont trouvé hier dans des convois de la liberté des marteaux, par exemple. Des manifestants ont aussi été arrêtés après avoir jeté des projectiles sur les forces de l'ordre, notamment sur les Champs-Élysées. Mais la plupart des convoyeurs de la liberté ont été verbalisés, simple drapeau à la main ou dans la poche, plus de 500 verbalisations pour participation à une manifestation interdite. Considéré comme l'un des organisateurs de ce mouvement, Jérôme Rodriguez, leader des Gilets jaunes, soutien actif des antipasses, a lui été arrêté tout près de l'Élysée hier et il reste en garde à vue pour organisation de manifestations interdites, notamment du côté des forces de l'ordre. La préfecture de police indique l'ouverture d'une seule enquête administrative contre un policier qui a braqué avec son arme un automobiliste qui refusait de s'arrêter sur la place de l'Étoile, drapeau tricolore à la fenêtre.
Sophie Parmentier. Quitter le Mali et il semble bien que la fin de Barkhane ne soit plus qu'une question de jour. Emmanuel Macron pourrait annoncer le retrait des forces françaises du Mali à l'occasion du sommet Europe-Afrique cette semaine à Bruxelles et selon le journal du dimanche, Emmanuel Macron réunira à Paris le mercredi, la veille du sommet, les dirigeants européens et africains engagés dans le combat anti-djihadiste et l'annonce du retrait pourrait se faire dans la foulée. En direct de Ouagadougou au Burkina face aux voisins du Mali, on retrouve notre envoyé spécial Claude Guibal. Bonjour Claude.
Bonjour.
Tout semble converger vers cette décision, quitter le Mali en raison d'un coût humain trop important, 53 soldats français tués au combat, d'un coût financier également, tout cela couplé à une hostilité, Claude, vis-à-vis de la France de plus en plus forte.
Oui, il y a une hostilité de plus en plus forte tout d'abord au Mali, là où sont stationnées physiquement les troupes françaises visibles en masse depuis 9 ans. Ces troupes qui cristallisent la colère face à une situation sécuritaire dégradée des troupes dont l'image est associée pour la population à celle d'une armée d'occupation. Alors aujourd'hui au Mali, ce départ de Barkhane est un enjeu politique majeur aussi pour la junte au pouvoir qui va ainsi obtenir la légitimité populaire qui lui manque à défaut d'avoir été obtenue par des élections. Et ici, au Burkina Faso, eh bien, on ressent ce même ras-le-bol, pourrait-on dire, face à cette présence française qui est vue comme une atteinte à la souveraineté des États sahéliens. En novembre, un convoi de Barkhane a été bloqué par des manifestations anti-françaises et ici, l'armée française, qui est moins visible qu'au Mali, eh bien, est perçue par la population comme relativement inefficace. Personne ne peut comprendre qu'une armée conventionnelle puissante ne puisse venir à bout des djihadistes et cela, bien sûr, cela alimente les thèses sur les réseaux sociaux qui taxent Barkhane de complicité avec les terroristes terroristes pour donner en quelque sorte un prétexte à la France, disent les gens, pour maintenir son armée dans la région, pour protéger ses intérêts économiques et énergétiques.
Claude Guibal, en direct de Ouagadougou au Burkina Faso, avec Gilles Gallinaro. Merci à vous deux. La crise ukrainienne, après l'alerte, la diplomatie et les discussions, ont marqué la journée d'hier. Entretien entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, puis discussion entre Joe Biden et le président russe. Le président américain a menacé des répercussions sévères et rapides en cas d'attaque. Et Moscou, qui dénonce ce matin l'hystérie américaine à l'apogée, a précisé qu'une réponse serait bientôt apportée aux contre-propositions américaines. Dans le même temps, plusieurs pays ont appelé leurs ressortissants à quitter l'Ukraine. Ce n'est pas le cas de la France, qui déconseille seulement à ses ressortissants de voyager en Ukraine. Et pour le député MoDem des Français de l'étranger, Frédéric Petit, le moment n'est pas venu pour les Français de partir d'Ukraine.
Quand les ressortissants américains partent, généralement c'est les premiers, et ils entraînent avec eux les Allemands, etc. Les Français, on a la tradition de rester plus, et on s'affole moins. De toute
façon, en même temps, la France n'a pas demandé officiellement aux ressortissants de quitter le pays. Est-ce que vous pensez peut-être qu'on devrait le faire ou pas encore ?
Non, pas encore, parce que moi j'étais au Caire en 2011, les Américains sont partis, les Français ne sont pas partis, on a eu raison.
Frédéric Petit sur France Info, invité de ce journal, Georgina Wright, directrice du programme Europe à l'Institut Montaigne. Bonjour Georgina Wright.
Bonjour.
Alors avant de parler plus particulièrement de l'Europe dans cette crise, est-ce que selon vous, l'activité diplomatique intense d'hier a-t-elle permis d'apaiser un peu les tensions ?
C'est une excellente question, mais je pense que c'est simplement beaucoup trop tôt pour répondre. Contrairement au Royaume-Uni, aux États-Unis, donc tous les Européens n'ont pas demandé à leur personnel diplomatique de quitter l'Ukraine. Certains travaillent à distance, certes, mais beaucoup sont restés sur place. Mais voilà, je pense qu'il est beaucoup trop tôt. On ne sait pas si la Russie envahira l'Ukraine. Et il faudra attendre, voir comment les négociations évoluent et voir effectivement ce qui se passe au cours des prochains jours.
Comment expliquez-vous, Georgina Wright, que l'Europe a mis quand même beaucoup de temps avant de s'impliquer dans cette crise, alors qu'il s'agit quand même d'empêcher une guerre en Europe ?
Écoutez, je pense qu'il y a deux aspects qui sont importants à relever. Premièrement, l'Union européenne ne dispose pas de compétences, enfin, ou en tout cas dispose de compétences assez limitées dans le domaine de la défense. Il n'y a pas de force commune, ne dispose pas de capacités d'intervention très actives, donc elles sont plutôt limitées. Et d'ailleurs, c'est pour cela que les pays européens, depuis 2 ans, négocient un nouveau livre blanc en matière de défense, ce qui permettra à l'Union européenne de répondre plus vite et de façon plus efficace aux menaces hybrides et aux attaques militaires. Je pense que il y a vraiment une profonde réalisation en Europe maintenant que cette crise est un moment décisif, que s'il y a une guerre sur le continent, c'est tout à fait possible, mais que là, l'Europe n'est pas en mesure d'y faire face seule, sans l'appui des Américains. Et que quand on regarde que ce soit la France, l'Allemagne, l'Italie, aucun pays européen n'est capable à lui seul de négocier avec la Russie et de vraiment forcer un accord, et que la seule façon d'y arriver, c'est de travailler ensemble. Donc consultation, partage d'informations régulières, entre pays européens, mais évidemment avec les alliés de l'OTAN, et adopter un paquet de sanctions et de mesures restrictives. Mais qu'à terme, il faudra évidemment renforcer les capacités de l'Union européenne des Européens de répondre aux crises.
Vous dites, Georgina Wright, que l'Europe est à un moment décisif, c'est un tournant pour l'Union européenne face à cette crise en Ukraine ?
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a des sondages d'opinion publique qui sont assez intéressants et qui démontrent bien que là, les Européens sont unis, qu'ils veulent que l'Europe, que ce soit l'Union européenne ou l'OTAN, fasse plus pour pouvoir faire face à des menaces, que ce soit des menaces hybrides ou des menaces militaires, que comme je vous disais, là, l'Union européenne dispose de compétences assez limitées dans le domaine de la défense, et que donc l'approche de l'Union européenne, pour l'instant, s'est concentrée plutôt sur la dissuasion, donc vraiment les menaces que si la Russie envahit l'Ukraine, que l'Union européenne répondra avec un nouveau paquet de sanctions, une approche qui se concentre sur le dialogue, donc plein soutien évidemment au dialogue entre la Russie et les États-Unis, mais également donc le format Normandie, cette configuration diplomatique qui réunit la France, l'Allemagne, l'Ukraine et la Russie, et évidemment la consultation donc entre Européens, mais également avec les alliés de l'OTAN. Mais je pense qu'à terme, il faudra que l'Union européenne fasse plus. On le voit, il y a déjà des négociations en cours pour un nouveau livre blanc en matière de défense, mais il faudra réfléchir évidemment à long terme en termes d'instruments et des dispositifs complémentaires.
Alors vous parliez de l'Allemagne et du format Normandie. Est-ce que l'Europe est vraiment unie ? Parce qu'on a quand même reproché à l'Allemagne d'être peut-être trop indulgente vis-à-vis de la Russie. Est-ce que tous les pays européens vont dans le même sens ?
Alors, je pense que qu'effectivement, au début de la crise, il y a eu cette critique que l'Union européenne était complètement divisée et que finalement, on ne pouvait rien faire sans les Américains. Je pense que l'approche des Européens a été une plutôt, il y en avait, enfin, que ce soit les pays comme la Pologne, les pays de l'Est qui voulaient effectivement que l'Union européenne, que ce soit l'Union européenne ou l'OTAN fasse plus et vite pour vraiment dissuader la Russie. Et il y en avait d'autres qui voulaient une approche un peu plus, je dirais, de caution, comme on dit en anglais, de faire plus attention, de vraiment appuyer le dialogue, de renforcer le dialogue avec la Russie. Maintenant, on voit vraiment que les Européens restent unis. Il y a quelques jours, le ministre des Affaires étrangères russe, donc Sergueï Lavrov, a écrit aux 27 ministres des Affaires étrangères européennes. Eh ben, les Européens ont fait preuve d'unité en demandant aux représentants de l'Union européenne pour l'action extérieure, Josep Borrell, de répondre au nom des 27. Ils sont en pleine négociation pour un paquet de sanctions. Et évidemment, l'OTAN continue à réfléchir à de nouveaux dispositifs, à renforcer les troupes aux frontières et de pouvoir vraiment envisager plusieurs réponses si la Russie, effectivement, envahit l'Ukraine. Donc, je pense qu'il y a plus d'unité qu'on ne pense.
Merci beaucoup, Georgina Wright, directrice du programme Europe à l'Institut Montaigne. Merci à vous. En Hongrie, le Premier ministre Viktor Orban repart en campagne pour un quatrième mandat lors des législatives du 3 avril prochain. Viktor Orban a lancé officiellement hier sa campagne en prononçant son discours sur l'état de la nation. Le scrutin s'annonce serré pour le chef de la droite hongroise qui fait face pour la première fois à un front uni de l'opposition et à un mois et demi des élections. Viktor Orban multiplie les cadeaux aux électeurs. Sur place à Budapest, Florence Labruyère.
C'est un Viktor Orban sûr de lui qui entre en campagne électorale. Dans son traditionnel discours de début d'année, le Premier ministre s'est posé en homme d'expérience sur lequel on peut compter.
J'ai passé 16 ans dans l'opposition et 16 ans au gouvernement. J'ai 5 enfants et 5 petits-enfants. Je crois que maintenant tout le monde sait qui je suis.
Si la gauche manipulée par Bruxelles revient au pouvoir, ce sera la catastrophe, prévient le Premier ministre, qui rappelle les cadeaux qu'il a fait aux Hongrois. Un 13e mois pour les retraités, le gel du prix de l'essence, un salaire minimum en hausse de 20% et dire que les députés d'opposition, ces ingrats, ont refusé de voter ces mesures.
Ils n'ont pas voté non plus la suppression de l'impôt pour les moins de 25 ans. Moi, j'espère que les électeurs ne voteront pas pour eux.
La stabilité économique promise par le gouvernement hongrois séduit les électeurs. À un mois et demi du scrutin, le parti au pouvoir est en tête dans les sondages. Dans 50 jours, vous pourrez compter sur la droite, assure Viktor Orban, plus confiant que jamais. Budapest, Florence Labruyère, France Inter.
Des passagers sidérés face à un incident rarissime et qui aurait pu avoir de graves conséquences. Une bagarre a éclaté en plein vol à bord d'un avion d'Air Caraïbes sur la ligne Paris-Cayenne. 3 personnes ont été placées en garde à vue. Bonjour Yann Gallic.
Bonjour.
Les vidéos de cette bagarre ont tourné abondamment sur les réseaux sociaux.
Des passagers ont filmé la scène avec leur smartphone. Sur ces images, on voit un petit groupe de voyageurs s'insulter avant de se jeter les uns sur les autres, de se donner des coups de pied et des coups de poing sous le regard médusé des autres passagers. Des membres de l'équipage, aidés par des passagers, ont dû s'interposer. Un steward a été légèrement blessé. Après l'atterrissage vendredi soir, les 3 protagonistes à l'origine de ces violences ont été immédiatement arrêtés par la police et placés en garde à vue. Ils doivent être présentés aujourd'hui au parquet de Cayenne. On ne sait pas encore ce qui a déclenché cette bagarre, explique Samuel Finiels, le procureur de la République au micro de Guyane la Première.
Il faut quand même pas oublier que cet aéronef, il franchit 8000 km au milieu de l'Atlantique. Il n'y a pas non plus énormément de possibilités de repli. Ça met en jeu aussi la sécurité de tout le personnel navigant et puis aussi des passagers qui sont à bord de cet avion. Donc c'est des faits, moi, que je considère inadmissibles, intolérables et qui appelleront une réponse ferme de la part du parquet de Cayenne.
Et les auteurs de cette bagarre en plein ciel risquent jusqu'à 3 ans de prison.
Yann Gallic, merci. On en vient maintenant à un événement sportif incontournable. incontournable aux États-Unis, un véritable show à l'américaine. La finale du Super Bowl, le football américain opposera la nuit prochaine les Bengals de Cincinnati aux Rams de Los Angeles qui jouent à domicile. Et aux États-Unis, la finale du Super Bowl est le programme télé le plus regardé, 100 millions de téléspectateurs. En France, le football américain est encore peu développé, mais il progresse. En Indre-et-Loire, un seul club propose de jouer au foot US, les Pionniers de Tours. L'équipe est en deuxième division, plus de 500 licenciés. Et le club veut rendre ce sport beaucoup plus accessible aux jeunes. Jean Rino de France Bleu Touraine a assisté à un entraînement de l'équipe première.
Trois fois par semaine, Martin, cet opticien tourangeau de 23 ans, enfile casque et épaulière pour 1h30 d'entraînement. Comme la plupart des joueurs de son équipe, le football américain, il est un peu tombé dedans par hasard.
J'ai atterri dedans parce que c'était une erreur à la base. Je voulais pas faire de sport, je voulais qu'on me laisse tranquille, donc j'avais dit foot américain. Et en fait, il y avait un club à Tours. Du coup, je me suis retrouvé dedans. Et finalement, ça m'a piqué et ça fait bientôt 10 ans que je suis là.
Félix lui joue en équipe première et entraîne aussi les juniors. Fort d'une expérience de 2 ans dans un club canadien, il essaye tant bien que mal de partager la culture du football US à la nouvelle génération.
C'est un sport qui représente exactement tout ce qui peut se passer dans une vie. On a besoin de tout type de personnes, tout type de joueurs, tout type de gabarits. C'est un grand combat d'échecs, mais à distance avec des pions vivants. Sport aussi qui peut être un petit peu spectaculaire. Voilà, il se passe plein de belles choses sur un terrain de foot en général.
Pourtant, le club a encore du mal à attirer les jeunes, souvent dissuadés par leurs parents qui associent ce sport à de la violence. Une image à des années-lumière de la réalité, selon le président des Pionniers de Tours, Philippe Barlier.
Oui, le football américain est un sport de contact, mais par contre, on n'a pas plus de blessures que dans d'autres sports. Statistiquement parlant, même c'est moins. Les contacts avec les casques sont complètement interdits, donc c'est sécurisé et sécurisant donc en fait pour les athlètes.
Et pour démocratiser ce sport et le rendre encore plus accessible en Indre-et-Loire, le club a pour projet de développer plusieurs antennes à Amboise, Loches ou encore Chinon.
Julien Rino de France Bleu Touraine, le temps pour les heures qui viennent et pour demain.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie.
Jean-Michel Golinski.
L'ambiance pluvio-venteuse jusqu'à 80 km à l'heure, arrivée en cours de matinée par le Finistère, va lentement gagner vers l'intérieur pour toucher l'Aquitaine, le Poitou-Charentes et la Normandie en soirée. À l'avant, le ciel du Midi-Pyrénées, du Limousin, du Centre, du Bassin parisien et des Hauts-de-France va progressivement se ternir au fil de l'après-midi avant l'arrivée sur ces régions de la pluie la nuit prochaine. Le franc soleil va persister de l'Auvergne-Rhône-Alpes au Grand Est. Enfin, du Languedoc aux régions provençales, les entrées maritimes, poussées par un vent sensibles vont rendre le ciel maussade, fortement pluvieux sur les Cévennes et neigeux au-dessus de 1300 mètres, avec des températures maximales quasiment partout supérieures de 3 à 5 degrés par rapport à hier. Demain, les pluies arrivées aujourd'hui par l'ouest vont toucher les secteurs entre les Pyrénées et le Massif central, également du Grand Est à la Méditerranée, avec de la neige à moyenne altitude sur tous les massifs. Sur la partie ouest, c'est un régime d'averse qui va s'installer avec partout un vent très sensible.
Jean-Michel Golinski de Météo France.